Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 12 caricatures de Mahomet, à nouveau à la une de Charlie Hebdo, à la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. La rédaction de l'hebdomadaire satirique affirme « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais ». Un acte dont Philippe Vall, l'ancien directeur de la publication, salue le courage. Les masques sont obligatoires en entreprise. PSA fabrique ceux de ses salariés. C'est dans l'usine PSA de Mulhouse qu'une ligne automatisée de fabrication de masques chirurgicaux a été installée. Vous entendrez le reportage de Catherine Pétillon. Emmanuel Macron presse les responsables libanais d'engager de véritables réformes. Le chef de l'État poursuit sa visite à Beyrouth et compte revenir au Liban en décembre. Christian Chénoué sur place pour France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump se rend à Kenosha dans le Wisconsin. Selon la Maison-Blanche, le président vient pour soutenir les Américains meurtris après les dégâts consécutifs aux nuits d'émeute qui ont suivi les tirs d'un policier contre l'Afro-Américain Jacob Blake. Vous entendrez l'oncle de Jacob Blake dans le journal. Elles avaient déclenché la colère du monde musulman en 2006. À la veille du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, Charlie Hebdo a choisi de publier une nouvelle fois des caricatures de Mahomet en une de l'hebdomadaire qui paraîtra demain. 12 dessins montrant le prophète et initialement publié dans un quotidien danois autour d'une caricature signée Cabu, le dessinateur Cabu qui faisait partie des victimes abattues dans les locaux de Charlie Hebdo. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
C'est un message très fort qu'a envoyé aujourd'hui la rédaction de Charlie Hebdo.
Oui, et pour accompagner ces caricatures en une de ce numéro spécial, il y a ce titre sur fond noir, tout ça pour ça. Ces caricatures font désormais partie de l'histoire pour la rédaction de Charlie Hebdo. C'est ce qu'elle explique dans un article publié sur son site internet. Elle n'hésite pas à parler de pièces à conviction car elles doivent permettre à tous, y compris aux plus jeunes, de comprendre le mobile de l'attaque qui a visé le journal satirique le 7 janvier 2015. Car en 2006, quand Charlie Hebdo a publié ces mêmes caricatures, il avait commencé à faire l'objet de menaces. Plusieurs associations musulmanes l'avaient attaqué en justice, mais le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que les limites à la liberté d'expression n'étaient pas dépassées, même si ces caricatures pouvaient être choquantes, voire blessantes pour les musulmans. La dernière caricature de Mahomet, publiée par le journal date de janvier 2015, juste après les attaques, on y voyait le prophète avec cette pancarte « Je suis Charlie », accompagné du titre « Tout est pardonné ». Pour la rédaction, il fallait une bonne raison pour publier de nouvelles caricatures avec du sens et qui apportent au débat. Le faire maintenant lui a donc semblé indispensable. Harris, le directeur de Charlie Hebdo, d'ajouter ce message dans son édito « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais ».
Et Philippe Vall, l'ancien directeur de la rédaction et de la publication de Charlie Hebdo, salue cet acte journalistique. Philippe Vall, joint par Antoine Marette.
Je trouve que c'est formidable, je trouve que c'est exactement un modèle de journalisme. Et ça ne m'étonne pas de Riss, qui a des idées journalistiques formidables. C'est absolument ce qu'il fallait faire, ce sont les pièces à conviction de ce procès. Quand les gens vont découvrir ces petits dessins et qu'ils vont voir que c'est à cause de ça qu'il y a eu tous ces morts, toutes ces tragédies, ils vont se dire « Mon Dieu, quelle horreur, comment c'est possible ?» Mais surtout, je voudrais que dans les journaux, les patrons de rédaction, les journalistes se disent « Merde, si on avait publié en même temps qu'eux, comme il en avait été question en 2006, il n'y aurait pas eu ces attentats, ces pauvres petits dessins. Si on les avait tous publiés, il n'y aurait pas eu ces attentats. » Simplement, la peur a prévalu. Et c'est formidable qu'il ait refait cette une, Riss. C'est pour rappeler pourquoi il y a eu tout ça. C'est des choses qui sont presque dérisoires. En plus, il les a republiées parce que, à l'époque, le tribunal, lorsque nous avions été assignés en justice et qu'on a gagné nos deux procès, en première instance et en appel, le tribunal, c'est-à-dire la République, s'est exprimé dans ses attendus. Et elle a dit, la publication de ces dessins était indispensable au débat démocratique. Donc, la République a tranché même contre l'avis du président de la République de l'époque, était Chirac, contre Villepin, contre tous ces gens qui ont essayé de nous dissuader de les publier. Finalement, la République a jugé que c'était utile au débat démocratique. Vous vous rendez compte? Et on en est aujourd'hui où? On en est aujourd'hui que tout le monde encore à la trouille. La trouille a prévalu.
Philippe Val, ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Le président du Conseil français du culte musulman appelle, lui, à ignorer ces caricatures et à penser aux victimes du terrorisme. La liberté de caricaturer est garantie pour tous. La liberté d'aimer ou de ne pas aimer également. Rien ne saurait justifier la violence, déclare Mohamed Moussaoui. Selon un sondage IFOP pour Charlie Hebdo, seuls 19% des Français de confession musulmane pensent que les journaux ont bien fait de publier ces caricatures au nom de la liberté d'expression. 82% des Français musulmans condamnent les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, mais la proportion est moindre chez les jeunes, dans la tranche d'âge de 15 à 17 ans. 67% des personnes interrogées condamnent cet attentat. Satisfecit du gouvernement à l'issue de la rentrée des classes. Les élèves sont là, le dispositif préventif est prêt et c'est presque une rentrée normale, estime le Premier ministre. Jean Castex qui s'est déplacé dans une école de Châteauroux à l'occasion de la rentrée scolaire. Malgré les masques et malgré des consignes sanitaires qui seront sans doute amenées à évoluer, donc tout s'est bien passé, estime Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
La rentrée est assez sereine, ce qui laisserait à penser que les élèves avaient envie de reprendre et les enseignants aussi, et que les familles étaient assez en confiance pour reconfier leurs élèves, leurs enfants à l'école. On sait bien que dans un contexte, même s'il est évolutif, les collègues ont besoin d'un peu de stabilité pour fixer les règles et s'assurer qu'elles soient appliquées, et puis d'avoir quelques points de référence. Alors effectivement, une directive ou une circulaire de la rue de Grenelle ne décrira pas tout dans le détail, mais un certain nombre de process sont nécessaires pour les collègues pour agir en confiance.
Au niveau pédagogique, pensez-vous qu'à terme, si la crise devait durer, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur les futures générations d'élèves ?
J'espère que non. Il va falloir effectivement effacer quelques mois d'enseignement dans des conditions différentes, avec une part de rupture complète, une part d'enseignement à distance, une part de reprise ponctuelle. Maintenant, faut pas imaginer qu'on fera deux années en une. S'il y a des différentiels qui se sont créés, il faut imaginer qu'on les effacera dans la durée et que c'est sur l'ensemble d'une scolarité que finalement les choses seront atténuées. Donc, faut pas imaginer qu'on récupère 4 mois d'ici décembre.
Philippe Vincent répondait à Kim Kasmi. En cas de contagion, le gouvernement veut tout faire pour éviter la fermeture d'un établissement entier, mais il étudie un dispositif offrant des solutions de garde aux parents en cas de besoin. Les entreprises et les salariés vont devoir s'habituer à travailler avec des masques car la pandémie ne va pas disparaître à court terme, prévient Alain Griset, le ministre délégué aux PME. Le masque est donc désormais obligatoire et les entreprises doivent s'en procurer pour tous leurs salariés. PSA fabrique ses propres masques chirurgicaux pour équiper les salariés du groupe. Il y a un mois, l'usine PSA de Mulhouse a installé sa ligne de production et elle pourrait produire quelques 70 millions de masques par an, Catherine Pétillon.
4 postes de distribution de tissus, les 2 postes de distribution d'élastique, le poste d'alimentation de la barrette nasale. Donc tout ça vient alimenter la ligne qui est complètement automatisée en termes d'assemblage du masque.
Les premiers lots ont été produits il y a une semaine. Désormais, de l'usine PSA de Mulhouse ne sortent plus uniquement des voitures, mais aussi des masques. Ils sont destinés aux 200 000 salariés du groupe. Franck Manessi est en charge du projet.
L'objectif pour le groupe, c'est de trouver son indépendance pour assurer la fourniture à ses salariés de cet équipement de protection, c'est-à-dire être capable de le produire en toute autonomie sans avoir à faire face à la dépendance aux pays asiatiques comme on a pu le connaître durant la phase de confinement. Sans cette indépendance pour la fourniture de masques, on met en danger notre capacité à protéger nos salariés et donc à poursuivre notre activité.
Des besoins estimés entre 8 et 10 millions de masques par mois. Combien cela lui a coûté jusqu'ici de les acheter, l'entreprise ne le communique pas. Mais le million d'euros investi pour lancer sa propre production est, dit-elle, déjà amorti.
Là, vous sentez le courant d'air. Vous sentez la surpression. Donc on garantit ainsi aucun passage de particules ou de poussière dans la zone de travail.
D'habitude, Franck Manessi est en charge de l'atelier peinture. C'est ce lieu qui a été choisi pour la fabrication de masques en raison de ses normes d'hygiène déjà très élevées. Il a ensuite fallu les adapter.
Les personnes dont c'est le métier de produire des masques nous ont donné le cahier des charges de l'environnement de travail.
Ce partenaire, c'est un fabricant de masques français qui demande la confidentialité. C'est lui qui a assuré la formation des 12 personnes de PSA désormais affectées à la fabrication de masques. Tous volontaires, ils y ont vu comme Guy Sareski une opportunité professionnelle.
Je me suis dit, tant qu'à faire, ça va me faire une nouvelle expérience. La plupart du temps, en fait, c'est fabrication de véhicules. Et là, c'est tout autre chose. Et je trouve que c'est relativement enrichissant. Et je ramène ma pierre à l'édifice.
Les masques produits rejoindront ensuite le site de Vesoul, à partir d'où ils seront acheminés vers l'ensemble des sites PSA à travers le monde.
Catherine Pétillon, à Mulhouse. Lundi de la semaine dernière, les vidéos de dealers s'exhibant avec des armes à Grenoble étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur s'est emparé du sujet. Samedi, une opération de police a été lancée dans le quartier du Mistral à Grenoble à la demande de Gérald Darmanin. Et hier, la préfecture de l'Isère annonçait 6 gardes à vue ainsi que des saisies de drogue. Aujourd'hui, un rappeur affirme que les hommes encagoulés que l'on croyait lourdement armés tournaient un clip avec des armes factices et de faux produits stupéfiants. Le parquet de Grenoble va s'efforcer de tirer tout ça au clair. Et face au sentiment d'insécurité des Français, Jean Castex veut un gouvernement uni dans l'action. Pas de polémique. Ce matin, Éric Dupond-Moretti critiquait le terme « ensauvagement » manié par son collègue de l'Intérieur. Pour le garde des Sceaux, je cite « on n'est pas obligé de faire dans la surenchère populiste ». La question n'est pas les mots qu'on emploie pour qualifier le phénomène, répond le Premier ministre, mais les actions que l'on va mettre en place pour y faire face. Les habitants de Nouvelle-Calédonie sont appelés à voter pour ou contre l'indépendance le 4 octobre prochain. Une nouvelle consultation prévue dans le cadre du processus de décolonisation fixé par l'accord de Nouméa de 1998. À un mois du scrutin, la tension monte entre indépendantistes et loyalistes et les débats se cristallisent autour de la possibilité ou non d'utiliser les couleurs du drapeau français pour faire campagne. C'est ce que permet partiellement un décret publié par le ministère des Outre-mer au mois de juin, alors que le code électoral lui l'interdit. Du coup, les indépendantistes avaient saisi le Conseil d'État. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Le Conseil d'État qui vient de rejeter leur demande.
Oui, ce sont les indépendantistes qui avaient saisi le Conseil d'État, vous l'avez dit, suite à la publication au mois de juin par le ministère des Outre-mer du décret qui permet l'organisation du référendum. Parce que ce décret suspend l'un des articles du code électoral français, l'article R27, qui stipule qu'on ne peut pas faire campagne en utilisant le drapeau français bleu, blanc, rouge. C'est normalement interdit par la loi pour éviter qu'une formation politique ne s'approprie les couleurs du pays et donne un caractère institutionnel à son message politique. Seulement, à l'occasion de ce référendum, les loyalistes, ceux qui militent pour le maintien de l'archipel au sein de l'État français, ont fait valoir que les indépendantistes, eux, utilisaient le drapeau kanak pour faire campagne et ils ont revendiqué le droit, au même titre que les kanaks, de porter leur couleur bleu, blanc, rouge, qui symbolise, estime-t-il, leur volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. Le ministère des Outre-mer, à travers le décret du 24 juin, les a partiellement entendus puisqu'il a décidé de suspendre l'application de cet article R27, tout en confiant parallèlement à la commission de contrôle la commission de contrôle du scrutin, le soin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de confusion sur la propagande électorale des loyalistes. Autrement dit, au fait qu'on n'ait pas l'impression que c'est l'État français qui fait campagne en faveur du non à l'indépendance. C'est ce point précis que contestaient les indépendantistes. Ils ont fait valoir qu'il y aurait forcément confusion du fait que le drapeau français est l'emblème national, tandis que le drapeau kanak n'est pas l'emblème de la Nouvelle-Calédonie, mais celui d'un parti, en l'occurrence le FLNKS. Ils ont donc été déboutés. Mais au-delà de l'affaire en elle-même, tout ça montre encore une fois, vous l'avez dit, que comme il y a 2 ans, les tensions s'accroissent entre les deux camps, loyalistes et indépendantistes, à l'approche du scrutin. Il y a 2 ans, le non à l'indépendance l'avait emporté, mais les indépendantistes avaient obtenu un score inattendu de près de 44%.
Stéphane Robert. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dénonce un véritable scandale écologique. L'entreprise de travaux publics Lafarge est en effet soupçonnée de déverser des eaux usées contenant du ciment et du plastique dans la Seine à Paris. Une enquête a été ouverte. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
C'est une usine Lafarge située dans le quartier de Bercy à l'est de la capitale qui est mise en cause.
Oui, l'enquête concerne effectivement ce site-là de Bercy, ce site de Lafarge qui se trouve à côté de Bercy. Et le parquet de Paris a sollicité l'Office français de la biodiversité, la toute jeune agence créée en janvier dernier, pour enquêter aux côtés de la police nationale. Quelques-uns de ces 1800 inspecteurs sont à l'œuvre. Impossible d'avoir des détails de leur part pour l'instant. La mairie de Paris, elle s'insurge, vous l'avez dit, contre ce qu'elle nomme un véritable scandale écologique. La maire Anne Hidalgo va saisir de son côté le procureur de la République. Un scandale qui n'étonne pas un autre témoin. Maryse Fourcade, vice-présidente de l'association des riverains du port de Javel. Elle habite juste à côté d'un autre site de Lafarge, dans la capitale, dans le 15e arrondissement. Et ce matin, cette dame a immédiatement renvoyé des photos à la mairie de Paris.
Ce que nous avons envoyé, c'est des photos de camions toupies Lafarge en train de déverser un liquide blanchâtre dont nous ne connaissons pas la composition directement dans la Seine. Ça, c'était le premier groupe de photos. Et le deuxième, c'était la pelleteuse de l'usine qui sert normalement à charger, décharger le ciment, etc., le sable dans les silos. Elle est utilisée en fait pour puiser de l'eau dans la Seine, nettoyer les quais de chargement et de déchargement et les installations de l'usine. Et tout ça vient ensuite être vidangé, se déverser à nouveau dans la Seine.
Ces photos datent du 20 juin dernier. Elles avaient d'ailleurs, ce jour-là, été déjà adressées à Jean-Louis Missika, notamment ancien adjoint au maire chargé de l'urbanisme à la ville de Paris, et à Marion Picard, du cabinet d'Anne Hidalgo. Or, Maryse Fourcade est formelle, son association n'a jamais obtenu de réponse de la part de la mairie, ce qui, dit-elle, l'a un peu chagrinée. Aujourd'hui, le cimentier Lafarge se dit victime d'un acte de malveillance, mais plusieurs observateurs, comme ses riverains, mais aussi comme les écologistes d'Extinction Rébellion qui ont occupé en février dernier deux sites de Lafarge, mettent fortement en doute cette explication.
Tara Schlegel, l'Opéra de Paris est dans une situation alarmante, mais je ne le laisserai pas tomber. C'est la promesse faite par Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, grande fan d'art lyrique, a assisté cet après-midi à la cérémonie de passation de pouvoir entre Stéphane Lissner et Alexandre Nehef. Le nouveau directeur général de l'Opéra de Paris prend ses fonctions un an avant la date prévue, car il y a urgence, rappelle la ministre. Du fait de la grève historique contre le projet de loi de réforme des retraites au début de l'année, puis du Covid, l'institution affiche une dette de plus de 45 millions d'euros. C'est tout son fonctionnement qui est à repenser, conclut la ministre. La France se dit prête à accueillir en octobre une conférence internationale de soutien au Liban. Emmanuel Macron est actuellement à Beyrouth. Il y effectue sa deuxième visite depuis l'explosion dévastatrice du 4 août. Le chef d'État de l'État est retourné voir le port et il accentue la pression sur les responsables politiques libanais qu'il appelle à lancer au plus vite des réformes. Le reportage de Christian Chéneau à Beyrouth.
Et en fait, ce que nous avons apporté ici, c'est des bras, du matériel, une capacité à déblayer plus rapidement.
Total, militaires, sauveteurs, etc.
Emmanuel Macron est revenu sur les lieux de la catastrophe pour faire le point avec les militaires français sur les opérations de déblaiement. Un travail fastidieux, pénible, dans une chaleur étouffante. Depuis le démarrage de l'opération Amitié, le 14 août dernier, 450 militaires travaillent avec l'armée libanaise pour rendre de nouveau opérationnel le port de Beyrouth. Environ 10 000 tonnes de gravats, ferrailles, morceaux de béton ont été triés et isolés. À bord du porte-hélicoptère amphibie Le Tonnerre, Emmanuel Macron a redit l'engagement de la France aux côtés du Liban, mais sous conditions.
Le soutien et l'aide d'urgence, ça c'est inconditionnel et on l'a organisé dès le premier jour. Et je voulais ici qu'on le coordonne, que ce soit fait en transparence et avec un esprit de responsabilité. Et à côté de ça, je veux que les réformes soient menées. Moi, je ne crois que les actes. Il y a le choix d'un Premier ministre dans un temps record par rapport à la vie politique libanaise contemporaine. Je pense que maintenant, il faut qu'il y ait un gouvernement de mission le plus vite possible et qu'il y ait derrière un programme de réforme qui commence le premier jour. Et là, on verra, on pourra commencer à être optimiste.
La nomination de Mustapha Adib est une première étape. La seconde, c'est la formation du gouvernement. Et l'Élysée ne veut pas de faunés, c'est-à-dire des ministres marionnettes qui agissent en coulisses pour le compte de leur chef de parti et qui font tout pour bloquer les réformes.
En pleine campagne présidentielle, Donald Trump se rend aujourd'hui à Kenosha dans le Wisconsin. Le président américain vient apporter son soutien aux Américains meurtris, explique la Maison-Blanche. Il doit rencontrer les forces de l'ordre locales, des propriétaires de commerce et constater les dégâts après les nuits d'émeutes. Des émeutes déclenchées par les tirs d'un policier contre l'afro-américain Jacob Blake, grièvement blessé. Justin Blake, l'oncle de Jacob Blake, est venu de Chicago pour participer aux manifestations pour réclamer que justice soit rendue. Omar Wama, notre envoyé spécial, lui a demandé ce qu'il attendait de la visite présidentielle à Kenosha.
Pas grand-chose. Il n'a rien fait si ce n'est attiser les tensions raciales et semer le désespoir parmi toutes les minorités de ce pays. On suppose que ses partisans, les suprémacistes blancs, seront présents et on ne veut pas faire partie de tout ça. Donc on va retourner là où Jacob a été blessé. On va participer aux opérations de nettoyage, aller à la rencontre de la population dans le quartier pour passer une journée constructive. Jacob va de mieux en mieux, il est toujours paralysé, il a été grièvement blessé, mais il est là, il est toujours vivant et nous sommes reconnaissants pour ça. Nous voulons que justice soit rendue, que ce policier soit inculpé pour tentative de meurtre au premier degré. C'est la justice, nous sommes en 2020. C'est fini le temps des pendaisons publiques, des lynchages et des assassinats des descendants d'Africains. On veut qu'il soit condamné et envoyé en prison.
Et les démocrates accusent Donald Trump d'attiser les braises des tensions raciales et sociétales aux États-Unis. La météo, le soleil dominera demain, mais il y aura des exceptions. Du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et des Alpes du Sud à la Corse, le ciel sera changeant avec quelques averses. Et des nuages d'abord présents en Bretagne arriveront en Normandie et dans les Hauts-de-France l'après-midi. Il fera de 6 à 20 degrés au petit matin. Les maximales atteindront 20 à 26 degrés du nord au sud jusqu'à 28 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.